L'évangile de Jean, chapitre 3. Et au verset, je vais lire à partir du verset 3. C'est le passage où Jésus rencontre Nicodème, ce docteur de la loi. Et à l'époque, les docteurs de la loi, ils connaissaient les écritures par cœur. Nous, maintenant, on a les iPhones, on a tout plein d'outils pour lire, mais à l'époque, il n'y avait pas tout cela. Donc c'est un docteur qui connaissait extrêmement bien les Écritures. Et voilà qu'il vient de nuit pour rencontrer Jésus. Il l'appelle Rabbi, d'ailleurs. Nous savons au verset 2, il dit que tu es docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors Jésus, au verset 3, lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous sommes dans cette année où nous étudions le royaume de Dieu. Et donc voilà ce que Jésus dit à cet homme. Et Nicodème lui répond à Jésus. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Or Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, donc l'eau c'est le baptême, la repentance, et d'esprit ben, c'est le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Car le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Alors Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. On arrêtera la lecture. Donc bien sûr, c'est Jésus lui-même qui est le Fils de l'homme, qui est descendu, qui était au ciel, qui est descendu sur la terre et qui est remonté. Donc Jésus est le seul qui peut parler de ce qu'il y a dans le ciel. Vous êtes bien d'accord? Parce qu'il parle de ce qu'il connaît. La deuxième lecture se fera dans juste le chapitre d'après, chapitre 4, avec une deuxième rencontre. Cette fois-ci, c'est une femme qui n'est pas docteur de la loi, qui est simplement une femme ordinaire, qui vient régulièrement au puits pour prendre de l'eau. Et c'est là que Jésus la rencontre. Au verset 19, « Seigneur, alors Jésus, bien sûr, lui parle les versets précédents, et il parle de ses maris, parce qu'elle en avait cinq. Et ensuite, après, verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » C'est-à-dire, tu parles de la part de Dieu. « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. » Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et je pense à l'instant à une troisième lecture qu'on va utiliser dans Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'aimerais ce matin simplement revenir sur quelque chose de fondamental concernant le royaume. On l'a déjà vu, mais plusieurs personnes ce matin n'étaient pas là dimanche dernier. Et je reprendrai un peu le sketch tout à l'heure pour bien faire comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Dans le passage de Jésus avec Nicodème, nous voyons que Jésus oppose la chair et l'esprit. Alors c'est quoi la chair ? Ben, c'est tout simplement l'âme et le corps, puisque l'âme est obligatoirement liée au corps et l'inverse est vrai également, puisque un corps sans âme est un cadavre et une âme sans corps est un fantôme, puisque nous sommes créés avec un corps. Et l'âme, c'est la partie vitale. Si nous prenons dans Genèse, au chapitre 1er, nous voyons la création de l'être humain. Et dans le chapitre 2 de Genèse, au verset 7, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Donc la poussière du sol, c'est tous les atomes qui font ce monde de création. Donc notre corps appartient aux éléments de la nature qui sont autour de nous. Donc il prit cette poussière, il prit ces éléments du sol et il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. On voit là que, donc c'est avant la chute, l'homme reçoit la vie. Sauf qu'après, Dieu lui donne un défi de ne pas manger de l'arbre de la connaissance parce qu'il va mourir. S'il va mourir, il va perdre la vie. Alors de quelle vie parle-t-on ? Vous voyez, c'est important de savoir de quelle vie nous parlons. En fait, il y a deux vies. Alors, la vie naturelle dont nous parlons, qui va être la mort, que nous tous nous sommes appelés à connaître, eh bien, cette vie-là, nous l'avons tous par la première naissance. On est bien d'accord. Nous sommes tous nés d'une femme et d'un homme, et nous avons la vie naturelle. Sauf que la vie spirituelle, la vie avec Dieu, elle nous a été bloquée. Nous prenons dans Genèse chapitre 3, voilà, au verset 22, nous voyons que là, après la chute, puisque la chute a amené la mort, après la chute, l'Éternel Dieu dit « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement, et il plaça des chérubins. » Donc nous voyons là que l'accès à la vie spirituelle, à la vie de communion avec Dieu, est bloqué. Dieu l'a bloqué à cause du péché. Or nous qui sommes chrétiens, nous voulons la vie spirituelle pour être en communion avec Dieu. Parce que la vie naturelle ne nous permet pas d'être en communion avec Dieu à cause du péché. Dieu ne peut pas laisser entrer le péché dans son royaume. Et fort heureusement, pour chacun de nous qui avons cette espérance de vivre un jour éternellement avec Dieu, il n'y a pas de péché dans son royaume. Et donc, comme le péché ne peut pas entrer, notre vie naturelle, que nous avons tous reçue par notre enfance, notre naissance, ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus explique à Nicodème, qui pourtant était docteur de la loi. Comme quoi, nous pouvons tous connaître la loi. On parle de loi, c'est la parole de Dieu, c'est les Écritures, c'est la Bible, tout ce que vous voulez. Sans d'être au fait vraiment des exigences du royaume. Et c'est le drame de la chrétienté, c'est le drame du christianisme, hein, où on a des églises de multitudes, où les gens viennent, ils adhèrent au christianisme, soit par culture, soit par hérédité familiale, soit tout un tas de raisons. Mais la seule manière de devenir chrétien, c'est la nouvelle naissance. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir. C'est ce que Jésus enseigne. Que par la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi nous qui sommes évangéliques, on veut coller le maximum aux Écritures, nous demandons à ceux que nous baptisons de pouvoir témoigner de leur nouvelle naissance. On est d'accord. C'est sur leur foi, sur leur déclaration que nous les baptisons. Nous ne pouvons pas juger, nous, de l'expérience qu'ils ont. Simplement, on peut bénéficier de l'expérience de leur témoignage. Et on sent bien, quand c'est authentique, qu'il y a la nouvelle naissance. Il y a des pasteurs de Pentecôte, dont Michel fait partie. Moi, je suis d'origine catholique, mais elle a toujours baigné dans le mouvement de Pentecôte. Elle disait que les pasteurs disaient quand quelqu'un se convertit, même le chien s'en aperçoit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un réel changement, qui affecte le monde qui voit des choses. Alors, il voit par l'extérieur, mais il voit un comportement différent, il voit un changement, il voit, etc. Donc on peut quand même le voir extérieurement, mais on ne peut pas voir intérieurement ce qui se passe. Donc la nouvelle naissance est la seule naissance qui peut ouvrir l'accès au royaume de Dieu, qui lui reste invisible. On est d'accord qu'on est dans l'invisible au niveau du royaume de Dieu. En tout cas, pour l'instant, il est invisible et pourtant réel. Hébreux 11, on l'a vu dimanche dernier, Hébreux 11 dit que la foi est la substance ou l'essence de ce qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez en tant que chrétien ? C'est d'être avec le Seigneur pour l'éternité, dans sa présence. Eh bien, la foi... Si vous exercez la foi, vous saisissez cette réalité qui, certes, est invisible, puisque justement, elle n'est pas accessible à la nature humaine qui est née d'un père et d'une mère, qui est née naturellement. Mais elle est accessible à ceux dans lesquels le témoignage intérieur du Saint-Esprit peut vous faire dire « Abba, Père ». Donc cette filiation au travers du Père, qui est le Père de la vie, eh bien, nous avons cet accès et nous pouvons bénéficier de ce royaume invisible qui pour nous devient réel, visible de l'intérieur, visible du cœur, visible de l'esprit. Amen. Donc la nouvelle naissance est le seul moyen d'entrer dans le royaume. Ce qui fait qu'il faut vérifier cette exigence. Est-ce que, c'est pas si nous sommes ceci, si nous sommes cela, mais est-ce que je suis né d'en haut, né dans le royaume de Dieu ? L'esprit est comparé au vent, au souffle. Voyez-vous, le vent, le souffle, on ne le voit pas, mais on le sent. On voit les effets du vent. Et quand vous voyez la Pentecôte, qui est la première... apparition du Saint-Esprit qui vient d'en haut parce que Jésus l'a envoyé sur son peuple, envoyé sur terre pour le remplacer. C'est le paraclet, celui qui remplace Jésus. Eh bien, il y a un vent violent qui arrive et qui amène ces langues de feu qui se placent sur chacun des apôtres et chacun de tous ceux qui étaient là, présents. Et ils parlent comment ? D'un seul coup, alors qu'ils étaient enfermés à double tour, c'est le cas de le dire, ils avaient peur des Juifs, puisque les Juifs savaient qu'ils étaient avec Jésus, ce Jésus qui a été crucifié à la croix, et donc ils avaient peur des représailles. Donc ils s'étaient enfermés. Et quand le Saint-Esprit vient, ils ouvrent toute la maison, ils sortent et ils s'expriment. et en particulier Pierre, qui est toujours le premier à s'exprimer, mais à la suite de Pierre, tout le monde s'est exprimé. On sait que même Thomas est allé en Inde, puisqu'en Inde, il vénère Thomas, qui est le premier apôtre qui est allé là-bas en Inde. Et comment est-ce que Pierre s'exprime? Comment est-ce que les apôtres s'expriment? Avec assurance? Comment encore? Oui? Il y a trois A. L'assurance, l'autorité, et l'audace. Voyez-vous, le vent qui souffle, le vent de l'esprit, qui ne se voit pas. Voyez-vous, on voit sur Pierre et les apôtres ces trois éléments qui sont visibles. L'autorité, ça se manifeste comment l'autorité? Alors pensez à Jésus. Jésus a l'autorité. Les gens qui étaient au temps de Jésus, ils ont vu qu'il parlait avec. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand il parlait avec autorité? Vous voyez, il faut voir les effets. Oui. Voilà. Pardon? En tout cas, l'effet de la parole se réaliser, si vous voulez. Si moi je dis démon sort, bon, si je n'ai pas d'autorité, il va sortir. Je vous donne toujours un peu, peut-être les mêmes idées qui me viennent, mais ce fameux enseignant de l'école biblique qui avait un certain âge et qui voyait les étudiants en train, une dizaine d'étudiants qui étaient en train de vouloir délivrer un autre étudiant qui avait des démons et ils n'y arrivaient pas, ça faisait des heures qu'ils étaient là. Et lui, il passe, il regarde simplement et le démon, il part. Vous voyez, il était à 15 mètres. Ça, c'est l'autorité. Vous voyez ? Il y en a qui à force de parole, c'est pas la parole, c'est pas la force de la parole, c'est pas la hauteur du son, c'est l'autorité. Alors, vous me suivez là? Jésus parlait avec autorité. Je veux pas dire qu'il hurlait, il parlait avec autorité. Dis-le à ton voisin, il parlait avec autorité. Voilà, l'autorité, c'est obéir, effectivement, et celui qui a le mieux compris l'autorité, c'est le centenier romain, qui a dit, mais forcément, mon chef, il me dit quelque chose, moi, je transmets, et les gens en dessous, ils obéissent. Sinon, ils ne font pas partie de l'armée. Hein. Ils peuvent faire partie d'un tas de choses, mais pas de l'armée, hein. Sinon, ils seront éjectés de l'armée. Si l'ordre ne descend pas jusqu'en bas, hein, pour atteindre l'ennemi, c'est pas l'armée. Or, l'autorité, c'est lui qui l'a compris. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu en Israël cette compréhension de la foi. Ça, c'est de la foi. C'est de croire que quand Dieu dit quelque chose, eh bien, la chose obéit. Que ce soit un démon, que ce soit une maladie, que ce soit la mort. Et Jésus a dit, Lazare, sors. Il est sorti. Alors, c'est l'autorité. Quand Pierre et Jean sont allés, tous les jours, ils allaient au temple pour prier, eh bien, ils voyaient ce paralytique. Ben, lève-toi et marche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé et marchait. Voyez-vous, ça, c'est l'autorité. Il faut qu'on retrouve l'autorité. Mais l'autorité, vous savez, c'est pas, on est dans une école biblique, on reçoit l'autorité. C'est pas, voilà, tout un tas de choses. L'autorité, c'est quand le Saint-Esprit nous remplit et qu'on parle avec autorité. L'audace, c'est quoi? C'est quoi l'audace? Oui, mais comment ça se manifeste? J'aime bien, vous savez, comme vous allez sur Wikipédia, audace, ça veut dire quoi? Voilà, c'est l'explication du mot. Parce que le mot représente une réalité. Et comment se manifeste l'audace? Pardon? Oui, alors va un petit peu plus loin. Prêcher la parole quand tu sais que si tu la prêches, tu vas être envoyé au lion. merveilleux. C'est ça l'audace. C'est-à-dire que vous défiez l'autorité, non pas celle de Dieu, mais l'autorité du monde, qui vous dit attention, si vous recommencez, ça ne se passera pas comme ça, vous terminerez dans l'arène au lion, vous terminerez comme d'ailleurs les apôtres ont terminé, hein. La plupart, par certains, et, voilà, ils ont terminé, Pierre a terminé sur une croix, la tête en bas, il a été crucifié comme Jésus. Donc l'audace, c'est de défier le monde, non pas pour le défier, non pas défier pour défier, mais défier dans le sens où qui a l'honneur ? Est-ce que c'est Dieu ou c'est le monde ? C'est ça. Et ça, c'est du pratico-pratique dans notre vie de tous les jours, au travail, machin, etc. Quand nous sommes défiés, est-ce que tu vas faire un mensonge ou est-ce que tu vas être la vérité ? C'est tout pratique. Hein. C'est ça, l'audace. J'ai l'audace de dire, dans cette situation, je reste sur la parole et c'est Dieu qui me sortira de ça. C'est pas moi, par mes moyens, mes capacités, etc. C'est ça, l'audace. Alors, l'audace, l'autorité, et le troisième A, c'est l'assurance. L'assurance, ça se manifeste comment ? Pardon ? Amen, amen. L'assurance, c'est une paix qui vous surpasse. Et vous, tout est déchaîné, vous êtes sur une tempête, vous êtes sur un bateau qui est en train de couler. Jésus avec les disciples. Qu'est-ce que faisaient les disciples ? Ils paniquaient. Et ils savaient ce que c'était qu'une mer démontée. Ils savaient que le bateau pouvait partir en morceaux d'un instant à l'autre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait ? Il dormait. Il dormait. Est-ce qu'on dit qu'il dormait parce qu'il était inconscient de ce qui se passait ? Alors pourquoi il dormait ? Oui, mais avant d'aller à la croix, oui, mais il avait l'assurance de quoi ? Laissons de côté. Parce que sinon, si on mélange tous les trois mots, là, l'assurance, on parlait de paix. C'est ça le mot paix. Pourquoi Jésus pouvait être dans cette paix avec assurance ? Je vais vous dire si je continue la phrase. Donc. Pardon ? Oui, bien sûr, il avait la foi. Dans le cas concret, mettez-vous, quand vous lisez un verset, projetez-vous un peu comme Michel le fait très bien, dans les situations concrètes. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand ils étaient dans le bateau ? Qu'est-ce qui s'est passé un tout petit peu avant de prendre le bateau ? Qu'est-ce que Jésus a dit ? Allons de l'autre bord. Ben voilà. C'est ça l'assurance. Ah oui ? Quand vous avez un appel sur votre vie, est-ce que vous connaissez votre appel ? Bien, vous savez que Dieu va vous amener de l'autre bord. C'est ça l'assurance. Vous êtes dans la paix parce que vous savez que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce que Dieu dit, on le chante. Mais là, vous voyez, je vous provoque un petit peu pour bien comprendre ce que c'est que l'autorité, l'audace et l'assurance. L'assurance, c'est que Jésus, quand il a dit aux disciples, allons de l'autre bord, il savait très bien qu'il allait arriver de l'autre bord. Mais il savait aussi qu'il y aurait une tempête, parce que c'était pour éprouver. Si vous n'êtes jamais éprouvé dans votre vie, vous n'apprendrez jamais rien. Moi, j'ai appris le plus dans l'épreuve. Parce que c'est là que j'ai vu comment Dieu se lève. Sinon, je ne l'aurais jamais vu de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher l'épreuve. Mais dans l'épreuve, ayez de l'assurance. Parce que vous êtes dans la main de Dieu. Et la parole de Dieu, Jésus a dit, nul ne vous ravira de ma main. C'est de l'assurance. L'assurance que Dieu veut faire ce qu'il vous a dit. Vous dites amen ? Amen. Voilà, donc l'autorité, l'assurance et l'audace, c'est comme ça que l'Église a commencé les premiers pas et doit continuer les pas suivants jusqu'à nous et jusqu'à ceux qui nous suivent. Amen. Ayons cette autorité, cette audace et cette assurance. Mais pas par nos propres forces. Vous avez bien compris. C'est dans la foi. C'est-à-dire que nous saisissons ce que nous espérons. Nous espérons que Dieu va agir. Nous espérons que Dieu va guérir. Nous espérons que lorsque nous disons au démon de partir, il va partir. Nous espérons tout ça. Mais saisissons-le. C'est ça la foi. C'est pas dire ah, « j'espère ». Vous savez, ce matin qu'on a chanté, j'ai bien vu que l'espoir n'a rien à voir avec l'espérance. C'est quoi l'espoir? Est-ce que vous avez de l'espoir ou de l'espérance? Les gens, ils ont de l'espoir. Enfin, beaucoup n'en ont plus puisqu'ils se suicident. Donc, ils n'ont plus d'espoir. C'est désespérant. Est-ce que vous avez de l'espoir ou de l'espérance? C'est quoi la différence? C'est une idée, l'espérance, l'espoir. On espère que ça aille mieux. On espère... Voilà, pourquoi pas. Mais il n'y a pas d'assurance. L'espérance, c'est s'appuyer sur des faits. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Vous le croyez? Sinon, vous êtes les plus malheureux des hommes. Si Jésus est ressuscité, et si Jésus était le Fils de l'homme et qu'il a dit « nous serons ressuscités avec lui », est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est de l'espoir ou de l'espérance? De l'espérance. Voyez-vous, il faut le royaume de Dieu, c'est des choses concrètes. C'est pas un vœu pieux, même s'il est très beau. C'est pas se projeter dans quelque chose de beau, hein, comme je le dis souvent, une vision bisounours, non? C'est une réalité. Amen. La Samaritaine. Tout à l'heure, on va faire le sketch pour bien illustrer tout ça. La Samaritaine, on l'a vu tout à l'heure, et se posait la question, et d'ailleurs, c'est une question que tout le monde se posait à l'époque. Hein. Les Samaritains, vous savez qu'ils vivaient à côté de Jérusalem, c'était l'ancienne... l'ancien Israël, hein, vis-à-vis de Juda, du royaume de Juda, royaume d'Israël, royaume de Juda. Et les Samaritains, eh bien, ils n'allaient pas à Jérusalem pour adorer. Ils avaient leur propre montagne, même des veaux d'or à un moment donné, au temps d'Akab. Et donc, il y avait cette polémique. Oui, les Juifs, ils adorent à Jérusalem. Nous, on adore à Sichem, on adore sur telle et telle montagne. Et donc, tout naturellement, la Samaritaine pose cette question à Jésus. Vous, vous adorez à Jérusalem. Nous, on adore ailleurs, mais où est-ce qu'il faut adorer? Alors, c'est une bonne question. En tout cas, c'est la question de l'époque. Et comment Jésus répond? Alors, c'est toujours un peu énigmatique, parce que le royaume de Dieu est énigmatique, il est paradoxal. Il y a des antagonismes, il y a déjà, pas encore, etc. Donc, effectivement, mais comment Jésus répond? Un, il dit le salut vient des Juifs. Qu'est-ce qu'il affirme? Quelle est déjà l'affirmation en disant cela que Jésus fait à la Samaritaine pour commencer le début de sa réponse à sa question « Où est-ce qu'il faut adorer ?» Il commence par dire « Le salut vient des Juifs ». Alors, il s'introduit lui-même et il introduit à nouveau un fait. Appuyez-vous sur des faits. Le christianisme, c'est des faits. Ce n'est pas une projection d'une idée. C'est des faits. Il dit, le royaume vient des Juifs. Pourquoi? Parce que Jésus, il vient des Juifs. Il n'est pas des païens. Je veux dire, c'est tout simplement une évidence. Mais encore faut-il le rappeler, parce que Jésus est le fils de l'homme qui est né d'une vierge, et on va le célébrer dimanche prochain avec la fête des enfants, la fête de Noël. Il s'est incarné au travers d'un peuple qui a été appelé. Et c'est pourquoi Jésus, enfin Dieu, dans ses derniers temps, il a rétabli Israël en 1948 comme État. Et c'est un miracle, c'est un fait encore, un miracle. On n'a jamais vu, l'histoire de l'humanité n'a jamais vu un peuple qui revient 2000 ans après rétablir un État avec une langue qui ne parlait plus, voilà, et qui est la langue de l'État hébreu. Et tout plein d'autres miracles. Regardez tous les miracles que représente l'État juif. Et ça, c'est sorti parce que Dieu veut utiliser cet État pour confondre les nations. Et ça les confond. Pour les confondre, ça les confond. Ça ne veut pas dire qu'Israël est parfait. Hein, rien à voir. Mais ça veut dire que Dieu confond les nations qui veulent trouver des solutions politiques et tout ça, et qui ne trouveront jamais. D'ailleurs, le pasteur Izaguri, qui a une église là-bas, il dit bien, lui, dans son église, il a des Arabes et des Juifs et des païens. Et ils s'entendent très bien, ils sont tous un. Et il dit bien que la solution, le problème que ne sera jamais résolu, le problème arabe, palestinien, etc. Bon, donc si vous voulez vous mêler de ces causes-là, elle est perdue d'avance, cette cause. Hein. Parce que, il dit bien, c'est un problème spirituel. C'est pas un problème politique, c'est un problème spirituel. Et un problème spirituel se résout spirituellement. Politique se résout politiquement. Problème physique se résout physiquement, etc., etc. Problème spirituel, c'est que ça ne se résoudra que quand Jésus va revenir. Alors, c'est au retour de Jésus, la parousie. Quand Jésus va revenir, tout va s'éclairer comme un puzzle. Il restait le dernier truc et tout se résout. Et Dieu confond les hommes qui veulent avec leur intelligence comprendre, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Donc revenons à la Samaritaine et dit, où est-ce qu'il faut adorer? Et Jésus dit, il faut adorer, l'heure vient, elle est arrivée, puisqu'il est arrivé avec lui, bien sûr. Jésus représente le royaume qui est descendu, il s'est incarné, et quand on va célébrer Noël, eh bien on va fêter le royaume qui, au travers de Jésus, est venu sur terre. Donc le royaume est venu maintenant, et il faut adorer où? En esprit et en vérité. Amen. Allez, on va faire le sketch, et je vous explique la suite. Ça marche? Alors, je vais désigner les personnes parce qu'il y en a qui sont absents de la semaine dernière, comme Colette et autres. Marie-France, tu peux venir. Édouard, Ruben, Jérôme, je crois. J'avais noté, parce que vous êtes un peu au courant, voilà, déjà, de ce que je vais faire. Ça sera plus facile. Alors, Édouard, attends. Alors, attends. Oui, mais ça va aller plus loin aujourd'hui, sauf que je trouve plus mon papier, c'est bête. Ah, c'est toujours comme ça. Hein. On fait des bonnes choses, puis après, on perd. Je vais improviser. Ah si. Rémi. Ah, Rémi, il est où? Ah oui, j'ai oublié. Rémi, tu peux chercher la croix que j'ai décrochée là-bas. Fais attention, il y a un pic, te le mets pas dans. Voilà. Alors tu restes là-bas. Pour l'instant, tu restes là-bas. Non, voilà, reste côté pour pas perturber le sketch. Voilà, on va refaire un sketch pour bien vous montrer comment tout ça fonctionne. Alors, Marie-France,
moi,
tiens. Non, tu
bien.
Toi, tu es le corps. Toi, tu es l'âme. Tu te mets là. Voilà. Soyez assez proche, oui. Et l'esprit. Voilà. Je vais vous l'expliquer avec ce que nous sommes en tant qu'être individuel. Nous sommes corps, âme et esprit, ou esprit, âme et corps, c'est peu importe. C'est une personne, hein, c'est une unité de la même. Ouais, vous êtes un, de la même manière que Dieu est un. Père, Fils, Saint-Esprit. Dire si c'était Dieu, ce seront trois personnes. Et ce qui est important, c'est pas tellement ce qu'ils sont, mais c'est leur relation. Donc ils se tiennent, voilà. Parce qu'il y a des relations dans les deux sens. Le Père aime le Fils aime le Père. Le Père envoie le Saint-Esprit est soumis au Fils, etc., etc. Quand vous méditez sur la Trinité, c'est extraordinaire de voir les relations entre les personnes. Et dans l'être que nous sommes, que vous êtes individuellement, il y a ces relations. Par exemple, il y a une relation, alors celle-là, qui est importante, qui est l'âme, le corps et l'âme, elle est absolument indissociable. Parce que si je la dissocie, voilà, ça, tout seul, c'est un cadavre, hop, puisque le corps, quand il est vidé de son sang, bah, il ne vit plus. Et l'âme sans le corps, c'est un fantôme. Voilà. Voilà. Donc le corps et l'âme, dans toutes les situations, il est uni. Voilà. Maintenant l'esprit, non. Voilà, c'est un sketch. Alors comme on l'a pas préparé, je suis directif. Quand on est, non. Quand on est de la femme, quand on est d'une femme, quand vous êtes né, quand tu es né, la vie, vous la recevez dans l'âme qui le donne au corps, puisqu'il est lié. Donc, toi, tu reçois la vie naturelle. Ça c'est l'être naturel. Okay, l'être que tous on reçoit par la nature. Lorsque nous vivons. Arrêtez-moi s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si vous voulez rajouter quelque chose. Ce temps est interactif. Mais qu'est-ce qu'il fait l'esprit ? Ben, tu te mets par terre. Non, reste là-bas. Tu te mets par terre. Voilà. Et tu te couches pratiquement. Enfin voilà. L'esprit, il est mort. Quand vous naissez à la vie, l'esprit, il est mort. Suite à ce que je vous ai dit tout à l'heure dans Genèse. Dans Genèse, le péché a fait que, après le péché, avant bien sûr l'Esprit était vivant, puisqu'il a reçu le Saint-Esprit, la vie de Dieu, mais quand vous naissez, naturellement, on est dans le péché. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas né dans le péché ? Tous, nous sommes dans ce monde de péché. Et donc l'Esprit est mort. Mais quand l'âme décide un jour d'accepter Jésus, donc tu te mets à genoux. Non, mais regardez toujours la main, parce que voilà. Et toi, tu peux te mettre à genoux aussi, mais oui, parce que le corps il suit l'âme. Voilà. Quand tu te mets à genoux et tu pries maintenant, Seigneur, je me repens de mes péchés.
Seigneur, je me repens de mes péchés. Et j'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Amen.
Alors qu'est-ce qui se passe ? L'esprit ?
Oh ! Je redis.
Tu te lèves et tu prends la main.
Voilà. Vous voyez, ça c'est la nouvelle naissance. Ok ? Ça c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que la personne humaine, qui a toujours été trois, mais où l'esprit était mort, il vient à la vie. Ok ? Et là, on pourrait améliorer encore le sketch avec Ruben, si tu veux venir. Et toi, tu es le Saint-Esprit. Ben, le Saint-Esprit, il est en lien avec l'Esprit. Voilà. Donc ça, c'est la partie de Dieu, hein, Père, âme, ben, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il vit dans le croyant. Et à la limite, tu peux te mettre derrière, tout en le tenant. Voilà. Et non, pour l'instant. Non, bouge pas. Tu vas tout perturber. Vous voyez ? Donc, en fait, la personne née de nouveau, elle est habitée par le Saint-Esprit, hein, qui en fait représente, enfin, Jésus qui est au ciel, hein, mais qui a son esprit, qui est sur la terre, dans ce monde, et qui fait de cette personne une personne nouvelle. Hello ? Elle est nouvelle. Voilà. Alors, maintenant, on va voir autre chose. Tu peux te rasseoir pour faciliter le sketch. Voilà. Alors maintenant, on va voir ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avec Nicodème, la Samaritaine. La Samaritaine dit, Seigneur, où est-ce qu'il faut adorer ? Jésus ne dit pas à Jérusalem. Il dit en esprit et en vérité. Alors, voilà. Alors, comment est-ce qu'on adore en esprit et en vérité? Saint-Esprit a touché l'esprit de la personne, il la transmet à l'âme, sauf que l'âme, naturellement, elle reste attachée à la terre. Même si elle a accepté Jésus, elle reste attachée à ce monde. Voyez-vous ? L'esprit, lui, est en communion avec Dieu, mais l'âme reste attachée à la terre. Donc, cette âme, elle est rebelle. Même en tant que chrétien, elle est rebelle. Elle est rebelle naturellement. Okay ? Donc, vous voyez, l'âme est rebelle. L'esprit essaye de lui dire des bonnes choses, de lui parler de Dieu, de lui dire voilà, vous voyez l'esprit lui parle, mais l'âme est rebelle, voilà. Et le corps, ben, il suit, il peut pas faire autrement, quoi. Hein, il suit, voilà. Donc il est rebelle. Et qu'est-ce qu'il faut pour enlever la rébellion de l'âme? Parce que, bon, là, j'ai pas préparé le sketch, hein. Donc j'ai juste les idées. Normalement, l'esprit, s'il adore en esprit, il doit se tourner vers Dieu. Il doit se tourner vers Dieu. Voilà. Et il doit recevoir de Dieu les instructions, l'inspiration. Les paroles de Dieu, il y a la parole aussi qui est là, l'écriture qui l'inspire. Donc il reçoit des choses. Et ensuite, après, il va essayer d'en parler à l'âme, mais qui est rebelle. Vous voyez ? Et ça, c'est un chrétien. Hein, ça, c'est un chrétien. Hein, voilà. Alors, comment est-ce que Paul, l'apôtre Paul, appelle ce chrétien ? Regardez-le. Pardon ? Alors ? Charnel. Tout à l'heure, quand il était mort par terre, l'apôtre Paul l'appelle la personne psychique. C'est psychique, l'homme psychique, hein, parce que c'est psychique, c'est l'âme, quoi. Hein, voilà. Il n'y avait que l'âme. Voilà. Donc le psychique, l'âme psychique, le personne psychique. Et là maintenant, c'est un chrétien charnel. Comment fait-on pour devenir spirituel? Parce que normalement, l'esprit, la personne spirituelle, elle est là, elle écoute, et elle transmet, et la personne ici, le corps, eh bien, se met à genoux, il adore, quoi. Il adore, comme dans l'Ancien Testament, qui exprime des gestes. Toute l'adoration dans l'Ancien Testament, ce sont des gestes, des mouvements du corps. L'adoration par terre, ou alors couché par terre, tu peux le lâcher pour faire mieux le sketch. Voilà. Montre tous les trucs, parce que c'est toi qui nous l'as enseigné. Voilà. Pardon ? Ah, c'est sciatique. Oui. Ok. Non, fais ce que tu veux juste pour montrer à l'auditoire comment l'adoration est expliquée dans l'Ancien Testament. Bah, montre.
Levez les bras au ciel. Il y a se prosterner, s'allonger comme j'ai fait tout à l'heure, que je vais peut-être pas refaire, danser, tourner. Ça exprime la joie, la délivrance, etc., etc. Mais le corps fait beaucoup de choses. C'est vraiment des mouvements qui partent de l'esprit par l'âme et qui s'expriment avec le corps. Voilà. Et c'est l'adoration. Et ça, le regard, oui, le visage aussi, merci.
Ça, c'est l'adoration. Et l'Ancien Testament n'est pas coupé du Nouveau Testament. Hein. C'est la parole de Dieu. Jésus, quand il citait les Écritures, il citait l'Ancien Testament. Okay, on est bien d'accord, ça n'existait pas, le Nouveau Testament. Ça a été écrit après. Donc, la louange, l'adoration, etc., c'est ce qui est exprimé par le corps, qui exprime, qui est la fin d'un certain processus d'écoute de l'esprit à l'esprit. la transmission à l'âme, qu'elle est obéissante, et qui transmet au corps. Et le corps. Donc vous voyez que le corps, il est l'expression de cette unité de la personne qui transmet et qui n'a pas de blocage. Alors, pour éviter, alors on revient en bougon, là, à l'âme qui est bougonne. Hein, voilà. Oui, mais c'est normal parce qu'il n'a pas eu de père quand il était petit. Donc, voilà, il en veut à tout le monde. Il était frustré par la vie. Donc, voilà. Vous voyez, là aussi, oui, voilà. Non, mais l'âme peut le faire aussi. Voilà. Donc, vous voyez, il a un tas de problèmes. Quoi. Ça se comprend. Le problème, c'est que cette personne-là est à l'EPEA, où il y a un ministère de la Maison des Lits. Hein, bon. Donc, voilà. Donc, même en étant chrétien, qu'est-ce qu'il devrait faire, ce chrétien charnel? Hello? Vous qui connaissez la Maison des Lits, hein. Alors, c'est là que Rémi va venir avec sa croix. Et tu la mets devant. Non. Mets-toi. Voilà, fais-la comme ça. Voilà. Alors, tu lâches pour mieux jouer le sketch. Ce chrétien, hein, qui est né de nouveau, pour vraiment être libéré, et que le corps là-bas, alors écartez-vous un petit peu. Le corps aussi. Et toi, tu fais les gestes d'adoration, de louange. Voilà, tu t'occupes pas du sketch. Tu fais ton adoration, la louange. Et toi, tu regardes au Seigneur. Tu cherches, etc. Voilà. Et voilà. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Hello. Vous connaissez les 5 R? Alors, Claudie. D'abord reconnaître. Reconnaître. Hein. Alors, viens devant maintenant. Voilà. Est-ce que tu reconnais que tu es bougon? Est-ce que tu reconnais? Ou est-ce que tu es dans le déni? Non, tu reconnais. Alors, tu te repens. Donc, tu t'agenouilles devant la croix. Voilà. Vous voyez, là, il fait les 5 R de la Maison des Lits. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je vous ai lu tout à l'heure Matthieu 16, 24, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il... Qu'il se charge de sa croix. Alors attention, hein, c'est pas la croix catholique. Je lui ai pas mis des cailloux dans ses chaussures pour qu'il souffre et tout ça. C'est l'âme qui doit mourir. C'est-à-dire mourir à elle-même. Renoncer à soi-même. Porter la croix, c'est renoncer à son ego. C'est-à-dire à sa vie propre. Il a reçu une vie propre. Propre au sens de, voilà. Elle-même, voilà. Quand il est né naturellement, oui. Tu reprends la croix maintenant. Vous voyez. Donc, le chrétien spirituel, il y a un pasteur un jour qui m'a dit, tu sais, André, les pasteurs, c'est des chrétiens spirituels. Je dis, ah bon? Oui, parce qu'ils doivent juger de tout. Voilà. Théologie du royaume, voilà. Je ne dis pas qui c'est, mais voilà, c'est affolant. Affolant. Je plains les chrétiens qui sont sous ce pasteur-là. Parce que, vous savez, si moi je me crois spirituel, ben je vais vous regarder de haut. Hein, je suis au-dessus de vous. Voyez, c'est assez grave, hein, dans les conséquences. Non, vous êtes tous spirituels si vous prenez la croix. Tous. Pasteur, n'importe qui. C'est le chrétien. N'importe qui, c'est pas une question de fonction, c'est une question d'attitude du chrétien. Alors revenez maintenant ensemble. Donc là, il est plus bougon maintenant, vous voyez, parce que à chaque fois que le Saint-Esprit lui montre que il est bougon, voilà, mais il va pas rester bougon, il va tout de suite se mettre devant la croix, vas-y, tourne-toi, voilà, laissez-le libre, mets-toi à genoux, voilà, il va faire les 5 R, il va se relever. il est libéré. Voilà. Et le corps, il manifeste la joie, il manifeste la vie, il a essayé de la liberté. Et est-ce que ça devient clair entre ce que nous avons vu avec Nicodème, la nouvelle naissance, ce que nous avons vu avec la Samaritaine, qui dit qu'il faut adorer. Alors, l'adoration en esprit, en vérité, toi, mets-toi là. Non, Rémi. Il représente, bon, c'est pas une bonne représentation, mais c'est Dieu. Mais tu écoutes, toi tu parles, voilà. Donc lui, l'esprit, celui qui est spirituel, hein, l'homme spirituel, il reçoit, et il dit à l'âme, qui reçoit aussi, puisqu'elle est libérée, okay, et puis bon, et qui donne au corps. Et le corps, il loue. Ça, c'est ce que nous avons appris, Soda Pop et Christine Janville. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Et c'est pour ça que quand j'ai dit, ah, c'est formidable, quoi. Parce que c'est pas de la danse pour la danse. Vous voyez, c'est par exemple le corps, il danse. Voilà, tu danses, voilà, un petit peu. Mais fais pas mal. Mais voilà, qui danse. Mais qui n'est pas relié à l'âme, qui est relié à l'esprit. Moi, je suis pas d'accord pour la danse dans l'église. Alors, c'est pour ça que moi j'ai freiné les quais de fer quand on m'en parlait de ça. Mais quand on est dans un temps de louange et que l'esprit écoute, il faut écouter. Et vous recevez, tous d'entre vous qui êtes nés de nouveau, vous recevez. C'est l'enseignement de Michel sur les charismes, dons cachés. On reçoit. Le Saint-Esprit, il est dit dans Corinthiens 12 que Dieu, sa main dansante, distribue. Vous recevez des dons chaque fois que vous êtes dans la louange, l'adoration. Chaque fois. Sauf que la difficulté, c'est de le transmettre. La difficulté, c'est que l'âme, qui n'est pas complètement libérée, elle. Non, mais vas-y, tu écoutes, et tu lèves les yeux au ciel. Ouais, il ne comprend pas. Il ne comprend pas bien, alors il réécoute. Alors ça, c'est déjà bien s'il écoute. Mais souvent, on n'écoute pas. Enfin, on ne fait pas l'effort de dire qu'est-ce que l'esprit en moi est en train de recevoir. Et c'est là la grosse difficulté. Et c'est là qu'il faut apprendre. Apprendre, ce matin, on a chanté « Mon âme hein, ». On donne des ordres à mon âme. C'est ce que disait David. C'est que l'âme doit entendre. La difficulté de l'esprit, c'est que... Vous savez, ça ne se passe pas tout à fait comme dans le monde humain où le langage est un langage en français, en anglais, en chiroquois, en je ne sais pas quoi. Non. En général, ici, c'est des images qu'on t'envoie. C'est des symboles qu'on t'envoie. Voilà. C'est un autre langage. Vous voyez ? On peut voir des visions, des révélations, des inspirations, tout ce que la parole de Dieu nous dit. Donc c'est sous cette forme-là. Bien sûr, si c'était du langage audible, il transmet le langage audible, voilà. On retombe dans un truc voilà, qui est mécanique. On n'est pas mécanique. On est à l'écoute du Seigneur et on reçoit des choses qui sont d'un autre ordre que le langage humain de l'âme qui a appris le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, machin, etc. Mais il faut qu'il le transmette après au corps tel qu'il a reçu. Et c'est toute là la difficulté de la louange et de l'adoration et du mouvement. Est-ce que vous... C'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. C'est qu'il faut apprendre. Il faut se laisser conduire. Et c'est pour ça qu'il faut un environnement. Et moi, je tiens à ce que dans l'Église, il y ait un environnement qui n'ait pas de jugement, qu'on ne juge pas, que tous nous puissions apprendre. Parce que nous sommes tous à un niveau différent d'apprentissage, mais on est tous en train d'apprendre. On n'apprendra jamais assez, parce que cette âme, même si elle fait les 5 R régulièrement, elle ne sera pas totalement libérée. Elle sera libérée quand ce corps-là, il va mourir. Alors, je ne te demande pas de te baisser, mais normalement, dans le sketch, tu te baisses, tu meurs. Voilà. Quand il meurt, eh bien l'âme meurt aussi. Paf. Voilà. Voilà. Il meurt. Voilà. Sauf que l'esprit, il est vivant. Et l'esprit est toujours avec le Seigneur. Alors, parce qu'il est né de nouveau, il est toujours avec le Seigneur. Mais, lorsque Jésus va venir, il y a un nouveau corps qui va apparaître et une nouvelle âme. Voilà. Parce que le corps sans âme, n'est, voilà, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, là, c'est un corps de résurrection. Le corps est ressuscité. L'âme est parfaitement obéissante à l'esprit. Et l'esprit est en parfaite communion. Oui. Ça, c'est la personne dans l'Éden, le jardin d'Éden, c'était comme ça. Le jardin d'Éden, tous les jours. Ça, c'est une... Alors maintenant, on va pouvoir faire mieux que ça. Tu te mets devant. Non, tu te mets toi devant. Voilà. Et toi derrière. Toi derrière. Voilà. Essayez de vous cacher derrière. Non, le corps, tu restes debout. Vous voyez que le corps, là. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Vous voyez, et ils sont trois, mais vous ne savez pas. Il n'y a qu'une seule personne. Vous voyez, mais c'est le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps. Et c'est comme ça que dans le jardin d'Éden, ils rencontraient le Seigneur et ils parlaient. Et c'est comme ça que le Seigneur il veut qu'on soit. Et c'est vers ça que le Seigneur veut qu'on aille. Amen. C'est bon? Merci beaucoup à tous. On les applaudit. Hein. Voilà, alors soyons de ceux qui prenons notre croix pour renoncer à nous-mêmes. Non pas pour faire un pèlerinage, non pas pour faire de l'ascétisme, pour faire des jeûnes interminables. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ne faut pas jeûner, ça n'a rien à voir. Mais voilà, ce n'est pas par une oppression de l'âme ou du corps qu'on arrive à ça par la croix. La croix qui est un instrument de mort à soi-même, de notre manière d'être nous-mêmes. Et ça, c'est l'évangile du royaume. Amen. On va prendre le repas du Seigneur ensemble maintenant, dans cette compréhension que le Seigneur veut que nous prenions la croix. Et que même nous acceptions de souffrir avec le Seigneur, non pas une souffrance de rédemption, puisque le rachat est fait totalement. On n'est plus ni dans la rédemption, ni dans le rachat. On est dans l'obéissance. Si l'âme n'obéit pas, elle ne peut pas transmettre au corps, elle ne peut pas être chrétienne totalement. Et donc, il faut que l'âme puisse renoncer à elle-même pour obéir à l'Esprit. Amen. Voilà, on va prendre le repas dans ce sens-là. Et si le Saint-Esprit vous montre des choses, eh bien, confessez-les. Seigneur, je te demande pardon. À votre place, vous pouvez simplement être libéré. Simplement, en pardon. Rappelez-vous à la croix, quand les deux larrons étaient à côté de Jésus, il y en a un qui s'est repenti, l'autre qui ne s'est pas repenti. C'est simplement un geste, une attitude, une confession. Je vous demande de vous lever pour que nous puissions ensemble prendre ce repas avec dignité tel que Jésus l'a instauré.